Bonjour à toutes et tous, c'est Jenny à l'antenne, bienvenue dans ce numéro de En toutes lettres, billet littéraire de Radio Campus Grenoble. Vous écoutez En toutes lettres sur Radio Campus Grenoble 90.8. Il est évident au milieu de la figure, sauf si on s'appelle Lord Voldemort. Le sphinx a perdu le sien, on le coupait parfois à des condamnés. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui il va être question du nez. Cet appendice qui, à en croire bien des légendes et des apparitions dans la littérature, en dirait long sur notre identité. Du côté des croyances populaires, le diable est souvent dépeint avec un nez proéminent et difforme. Dans cette suite logique, on connaît les tristement célèbres représentations des sorcières ou des juifs au Moyen-Âge. Dans un autre registre, d'aucuns pensaient qu'il y avait une corrélation, chez les messieurs, entre la taille du nez et celle du pénis. Or, de même que, dans la symbolique du corps, l'œil évoque la lucidité prophétique, le nez fut longtemps associé au fait d'avoir de l'intuition. D'où certaines de nos expressions comme « avoir du nez »,« bien sentir les choses » ou « avoir quelqu'un dans le nez ». C'est dire la diversité d'interprétations que l'on prête à cet organe, et la littérature n'a pas manqué de s'emparer du motif pour construire certaines figures. Nous allons avoir l'occasion d'observer comment un nez peut servir tantôt un propos philosophique, tantôt le portrait moral d'un individu en étant soit sa force, soit son handicap. Et, plus étonnant, le nez peut servir une critique sociale par l'absurde. Mais pour l'heure, commençons avec le nez d'une femme de légende.
Mauvais caractère, mais joli nez.
Très joli nez.
Cléo, j'aime ton nez mignon. J'aime aussi les champignons. Et puis les saucisses et le pain d'épices quand l'appétit va tout bas.
Nous venons d'entendre Astérix, Panoramix et Obélix s'exprimer sur le sujet et, petite colle, quel est le point commun entre ces trois Gaulois et le philosophe Blaise Pascal ? Eh bien, l'appréciation du nez de la reine Cléopâtre. Dans ses célèbres pensées, une série de fragments rédigés vers 1660, dans le but d'écrire une apologie de la religion chrétienne qui ne verra jamais le jour, Pascal écrit « Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face du monde aurait changé. » Cela a l'air d'une boutade, mais cette assertion prend place dans une réflexion philosophique sérieuse. D'ailleurs, petit point stylistique, cette phrase est l'exemple souvent donné pour illustrer ce qu'est l'anacolute. Il s'agit d'une figure de style consistant à rompre la logique grammaticale d'une phrase. Ici, dans « Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face du monde aurait changé », le groupe sujet est le nez de Cléopâtre, mais il ne reçoit aucun verbe d'action et la phrase part ensuite sur un autre groupe sujet qui commande le verbe d'action. La face du monde aurait changé. Mais revenons à notre nez. Cléopâtre était réputée pour son charisme, dont son nez imposant aurait été un élément clé, et pour ses amours, notamment avec Jules César et Marc-Antoine. Alors, avec cette phrase devenue culte, Pascal nous dit que des petites causes, parfois même insoupçonnées, peuvent naître de grands effets. Eh oui, Cléopâtre aurait-elle séduit ces deux grands Romains si son nez avait été plus ordinaire? Si le nez de Cléopâtre avait été plus court, elle n'eût peut-être pas été aussi belle, et Antoine n'aurait pas abandonné Octavie pour elle, et ne se serait pas brouillé avec Octave, et n'aurait donc pas participé à l'avènement d'Auguste après l'affrontement entre Octave et Antoine, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est la grande question de l'effet papillon, ou effet Cléopâtre en l'occurrence. Le moindre mouvement importe-t-il dans les enchaînements logiques des causes et des effets de toute la nature? Autrement dit, toute action est potentiellement importante de façon insoupçonnée, et de grands événements auraient-ils eu lieu sans des maillons invisibles?
Cléopâtre avait été plus long, si le grand Paganini n'avait pas joué de violon,
et si Roméo n'avait pas rencontré Juliette,
on n'en serait pas là.
Si vraiment tous les chemins ne menaient pas à Rome. Si le père Adam n'avait pas tant aimé les pommes.
Si les gars de Jéricho n'avaient pas eu de trompette.
On n'en serait pas là.
Oh non, sans tout cela, on n'aurait pas d'ennui. Oh non, tous nos tracas seraient bien vite enfuis.
Car si la Joconde n'avait pas son fameux sourire,
si Cambronne n'avait pas eu son petit mot à dire,
si François Ier s'était payé une bicyclette,
on n'en serait pas là.
Si le nez de Cléopâtre avait été plus long.
Du symbole philosophique, il n'y a qu'un pas, ou plutôt qu'un nez, vers le symbole moral. On connaît bien sûr Pinocchio, dont l'allongement du nez trahit les mensonges. Mais des siècles avant le pantin de bois, on trouve des nez signifiant la qualité morale de telle ou telle personne. Ce qui n'est pas étonnant dans un système de pensée ayant très longtemps voulu que le corps était le signifiant des vices et des vertus de son propriétaire. C'est d'ailleurs pour cette même raison, consistant à envisager le corps comme un signe, que les peines et les châtiments de l'Ancien Régime étaient si codifiés, de sorte à laisser la marque du crime. Au tout début du XVIIe siècle, avec le très virulent satiriste Charles de Cigogne, le nez d'un courtisan fait l'objet de moqueries dans un poème reprenant une structure répétitive et emphatique, généralement réservée à l'éloge, mais ici prompt à la moquerie sans concession.
Mes amis, en quelle boutique, d'une sotte façon antique, ce malheureux nez fut-il fait ? Le chétif homme qui le porte, l'on n'en vit jamais de la sorte. Oh, que j'en suis mal satisfait ! Nez plus long que tout le visage, nez qui fait un arpent d'ombrage, nez roué de tous les autres nez, nez que 100 000 couleurs fardes, nez dont tous ceux qui le regardent, riant, demeurent estonnés.
À grand renfort d'hyperbole, les fards excessifs du courtisan sont ici pris en grippe. Cigogne a repris dans ce texte, en le renversant négativement, un texte de 1550 qui, au contraire, faisait l'éloge d'un nez dans le recueil « Blason anatolique du corps féminin ».
Nez douce entrée d'amoureuse pointure, nez des amants, la vraie nourriture, ô nez bienfait, nez reconsolatif, nez mignonnet, ô nez récréatif, nez singulier, plaisant et gracieux, nez condescent, ô trésor précieux, nez jugement de bon et mauvais vin, nez argument du grand pouvoir divin, ô nez vrai juge d'un parfait et parfait.
S'il y a bien un autre personnage du XVIIe siècle réputé pour son nez et qui fait partie des héros favoris des Français dans la littérature, c'est Cyrano de Bergerac. Son nez gigantesque est un des premiers attributs évoqués à son sujet par les personnages mêmes de la pièce d'Edmond Rostand, représentée pour la première fois en 1897. Cyrano a une réputation de bretteur, de fauteur de troubles, de pourfendeur des mauvais penseurs et des mauvais comédiens, et ainsi la pièce s'ouvre sur un parterre de spectateurs attendant l'entrée en scène du pitoyable acteur Montfleury, mais plus encore attendant de savoir si Cyrano va venir gâcher sa représentation et lui faire sa fête. Ce qui ne manque pas, Cyrano apparaît et chasse Montfleury, mais aussitôt, au moins 3 personnes s'en prennent à lui en raison de l'énormité de son nez. On a là comme une malédiction. Malgré les coups d'éclat et le brillant esprit de Cyrano, il y a toujours un imbécile dans la salle pour le ramener à son apparence disgracieuse, avec des commentaires aussi grossiers que déplacés. Mais le bretteur ne se laisse pas démonter et, à un crétin qui lui signale en se croyant drôle que son nez est très grand, il répond avec une tirade célébrissime qu'on va se faire le plaisir de réécouter, magistralement interprétée par Gérard Depardieu.
Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un anap. Descriptif. C'est un roc. C'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap. C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur? Ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous patinez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée? Maintenant, gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre, faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédon, l'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle hippocampe et les fantômes camélos, dit avoir sous le front tant de chair, sous tant d'os. Dramatique, c'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif pour un parfumeur, quelle enseigne. Lyrique, est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf. Ce monument, quand le visite-t-on? Militaire, pointé contre cavalerie! Pratique, voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, parodiant Pyrrhin en un sanglot, le voilà dans ce nez qui, des traits de son maître, a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit? Oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de l'être, vous n'avez que les trois qui forment le mot « sot ». Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir me servir devant la galerie, pareil assortiment d'amères moqueries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me les sers moi-même, avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve.
Je parlais de blason un peu plus tôt, ces poèmes qui détaillent une ou des parties du corps pour faire l'éloge ou le blâme d'une personne. Eh bien, cette tirade du nez reprend elle aussi la structure du blason, avec au moins une vingtaine de variations humoristiques sur le même thème, à savoir moquer un nez anormal. Tout y passe, comparaison animale, hyperbole, rapprochement avec des objets et pastiches d'auteurs antiques. C'est avec cette pièce de théâtre, et en particulier avec des morceaux de bravoure comme cette tirade, que Cyrano est devenu mythique. Cependant, on peut rappeler qu'avant d'être le personnage d'Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac a réellement existé. Il s'agit d'un auteur de la première moitié du XVIIe siècle. Il s'est illustré par une tragédie, la mort d'Agrippine, mais surtout par un diptyque de romans baroques, Les États et Empires de la Lune et Les États et Empires du Soleil. Comme le personnage de Rostand, le vrai Cyrano était réputé pour son panache, pour son esprit acéré et provocateur, on le considère d'ailleurs comme un libertin érudit, et pour son grand nez dont il se moque allègrement. C'est un leitmotiv de la pièce et, outre la tirade, l'on a un autre moment où Cyrano mouche un petit bourgeois qui s'est arrêté pour le dévisager, et notamment regarder ce que vous pouvez deviner.
Énorme mon nez, vil Camus, sot camard, tête plate, apprenez que je m'enorgueillis d'un pareil appendice, attendu qu'un grand nez est proprement l'indice d'un homme affable, bon, courtois, spirituel, libéral, courageux, tel que je suis, et tel qu'il vous est interdit à jamais de vous croire déplorable maraud, car la face sans gloire que va chercher ma main en haut de votre col est aussi dénué de fierté, d'envol, de lyrisme, de pittoresque, d'étincelle, de somptuosité, de nez, enfin, que celle que va chercher ma botte au bas de votre dos.
Néanmoins, on peut s'en douter, derrière un jeu d'autodérision aussi obsessionnel, se cache une vraie blessure. Cyrano déguise en fierté ce que, par ailleurs, il tient pour un vrai handicap. Ce nez monstrueux, c'est en effet sa condamnation, et notamment auprès des femmes dont jamais une seule ne lui a témoigné d'intérêt amoureux. À cause de cette protubérance, jamais il ne pourra être aimé de la précieuse Roxane, comme il le confie à son ami Lebray au détour d'une conversation sincère, et cette fois-ci bien loin des fanfaronnades en public.
« Regarde-moi, mon cher, et dis quelle espérance pourrait bien me laisser cette protubérance. Oh, je ne me fais pas d'illusions, parbleu.
Oui, quelquefois, je m'attendris dans le soir bleu. J'entre en quelque jardin où l'heure se parfume. Avec mon pauvre grand diable de nez, je hume. L'avril, je suis des yeux sous un rayon d'argent. Au bras d'un cavalier, quelques femmes en songeant. Que pour marcher à petits pas dans de la lune, aussi moi j'aimerais au bras en avoir une. Je m'exalte, j'oublie et j'aperçois soudain l'ombre de mon profil sur le mur du jardin.
De ce terrible constat naît l'intrigue centrale de la pièce. Roxane est amoureuse du jeune et beau Christian, qui malheureusement manque autant d'esprit que Cyrano de beauté. Et contre toute attente, Cyrano entreprend de prêter à son rival la plume et les idées qu'il n'a pas, afin qu'à eux deux, ils séduisent Roxane. Est-ce que l'on peut y voir un acte d'abandon et d'abnégation, ou au contraire un étrange orgueil de la part de Cyrano en voulant ainsi charmer la jeune femme par procuration grâce à l'apparence de Christian ? La question se pose, et en un sens, par ce stratagème, le bretteur au grand nez aura atteint un peu de ce qu'il désirait. Piètre compensation toutefois, car d'un autre côté il reste, comme il le dit lui-même, le Lazare de ce festin amoureux où il n'a pas sa place. Demeure par ailleurs la grande question, Roxane aurait-elle admis la vérité et aimé Cyrano sans l'apparence de Christian, ou bien Christian sans l'esprit de Cyrano ? Pendant un temps, notre précieuse demeure la grande dupée de l'histoire, jusqu'à un certain point cependant, où Roxane va se révéler futée, décidée et très active. Voilà donc une pièce mythique à découvrir ou redécouvrir et régulièrement réinterprétée par des metteurs en scène. On peut aussi l'apprécier grâce au très beau film de Jean-Paul Rapneau, dont voici un dernier extrait avec lequel nous quitterons Cyrano. Dans ce passage, il essaie de relater à ses confrères d'armes un combat à l'épée qu'il vient d'avoir, mais Christian, depuis le fond de la salle, n'a de cesse de le charrier en l'interrompant pour placer des expressions sur son nez.
« Eh bien donc, vers minuit, j'allais à leur rencontre. » La lune dans le ciel luisait comme une montre quand, soudain, je ne sais quel soigneux horloger s'étant mis à passer un coton nuagé sur le boîtier d'argent de cette montre ronde. Il se fit une nuit la plus noire du monde et les quais n'étant pas du tout illuminés, mordius, on n'y voyait pas plus loin que son nez. Je disais donc, mordius, que l'on n'y voyait rien. Et je marchais, songeant que pour un gueux fort mince, j'allais mécontenter quelques grands, quelques princes qui m'auraient sûrement...
Dans le nez.
Une dent, qui m'aurait une dent, et qu'en somme imprudent, j'allais fourrer...
Le nez.
Le doigt entre l'écorce et l'arbre, car ce grand pouvait être de force à me faire donner...
Sur le nez.
Sur les doigts. Mais j'ajoutais, marche, Gascon, fais ce que doit. J'avance, et tout à coup me trouve...
Nez à nez. Oh,
face à face. Oui, avec son braillard enragé qui puait...
À plein nez.
L'oignon et la vinasse. Je bondis, front baissé...
Nez au vent.
Et je passe. J'en estomac deux. J'en empale un tout vif. Quelqu'un m'ajuste, paf. Et je riposte.
Pif!
Tonnerre! Sortez tous!
Le nez peut ainsi constituer l'élément de reconnaissance fondamental de certains personnages. Là où Cyrano est un héros flamboyant malgré la marque de cet appendice, d'autres protagonistes, dotés d'un nez légendaire, sont quant à eux sinistres et criminels. Allons donc à la rencontre de Jean-Baptiste Grenouille, tueur en série du roman Le Parfum de Patrick Susskind, publié en 1985. Son nez, et plus précisément son odorat, fait l'identité profonde de ce meurtrier d'un genre bien particulier, porteur d'un don incomparable et maudit.
Thank you.
Liberté en toutes lettres sur Radio Campus Grenoble 90.8. Avec ce roman, Patrick Susskind relève le défi de décrire des odeurs bien plus ardues que la dépiction de la vision ou de l'ouïe. Tout au long de ce récit, qui prend place dans la France du XVIIIe siècle, le concret de l'odeur et la puanteur sont omniprésents, et ce, dès les premières pages. Si on connaît l'Ancien Régime pour ses grandes inégalités, pour le coup, l'on peut parler d'une égalité de tous devant la puanteur. Le dégoût se manifeste dans l'écriture et tout est fait pour que nous ressentions un plaisir paradoxal de goûter les bonnes comme les mauvaises odeurs via la tentative de traduction des odeurs, même épouvantables par les mots.
À l'époque dont nous parlons, il régnait dans les villes une puanteur à peine imaginable pour les modernes que nous sommes. Les rues puaient le fumier, les arrière-cours puaient l'urine, les cages d'escalier puaient le bois moisi et la crotte de rat. Les cuisines, le chou pourri et la graisse de mouton. Les pièces d'habitation, mal aérées, puaient la poussière renfermée. Les chambres à coucher puaient les draps graisseux. Les courtes pointes moites et le remulgue âcre des pots de chambre. Les cheminées crachaient une puanteur de soufre. Les tanneries, la puanteur de leur bain corrosif. Et les abattoirs, la puanteur du sang caillé. Les gens puaient la sueur et les vêtements non lavés. Leurs bouches puaient les dents gâtées, leurs estomacs puaient le jus d'oignon, et leur corps, dès qu'ils n'étaient plus tout jeunes, puaient le vieux fromage et le lait aigre et les tumeurs éruptives. Les rivières puaient, les places puaient, les églises puaient, cela puait sous les ponts et dans les palais. Le paysan puait comme le prêtre, le compagnon tout comme l'épouse de son maître artisan. La noblesse puait du haut jusqu'en bas, et le roi lui-même puait. Il puait comme un fauve, et la reine comme une vieille chèvre, été comme hiver.
Dans cet univers abominablement puant, le jeune Jean-Baptiste Grenouille est doté d'un odorat extraordinaire qui lui permet d'enregistrer, de décortiquer, puis de recréer toutes les odeurs. Il va donc se mettre en quête du parfum absolu, nous faisant passer de la puanteur extrême à la recherche du parfum divin. En enregistrant toutes les odeurs qu'il croise, Grenouille est en quelque sorte un double du romancier qui veut, comme lui, arriver à créer des parfums avec le médium des mots. Né dans la puanteur, d'une mère poissonnière, Jean-Baptiste Grenouille va s'accrocher à la vie et déjouer tout ce qui, à l'époque, aurait dû le faire mourir très jeune. Il reconnaît la moindre odeur, mais grand drame identitaire, lui-même n'a pas d'odeur. Il est considéré comme diabolique pour cela, car un être doit avoir une odeur. Sans cela, il n'a pas vraiment d'existence pleine et entière. Ici, l'odeur est la métaphore de la quête identitaire. D'un autre côté, serait-ce parce que lui-même n'est rien et n'a pas d'odeur que Grenouille peut à ce point enregistrer toutes celles du monde autour comme pour s'en remplir. D'ailleurs, pour Jean-Baptiste, cette quête des odeurs est une quête initiatique. Il s'agit de passer à un stade où, pour lui, il n'y a pas de hiérarchie entre bonnes et mauvaises odeurs, à un stade où il va falloir, au contraire, discerner le bon du mauvais pour composer le parfum absolu. C'est un apprentissage, et le moment de la révélation, le moment où il s'aperçoit qu'il y a des bonnes et des mauvaises odeurs, est sa rencontre avec une petite marchande de fruits dont il vénère littéralement la senteur. Le parfum de cette jeune fille est une épiphanie, c'est-à-dire le moment d'une révélation et d'une prise de conscience de sa vocation.
Elle était rousse et portait une robe grise sans manches. Ses bras étaient blancs et ses mains jaunies par les mirabelles qu'elle avait entaillées. Grenouille était penché au-dessus d'elle et aspirait maintenant son parfum sans aucun mélange, tel qu'il montait de sa nuque, de ses cheveux, de l'échancrure de sa robe, et il en absorbait en lui tout le flot comme une douce brise. Jamais il ne s'était senti si bien. Quand elle fut morte, il l'étendit sur le sol, au milieu des noyaux de mirabelles, et lui arracha sa robe. Alors, le flot de parfum devint une marée. Elle le submergea de son effluve. Il fourra son visage sur sa peau et promena ses narines écarquillées de son ventre à sa poitrine et à son cou, sur son visage et dans ses cheveux, revint au ventre, descendit jusqu'au sexe, sur ses cuisses, le long de ses jambes blanches. Il la renifla intégralement de la tête aux orteils. Il collecta les derniers restes de son parfum sur son menton, dans son nombril et dans les plis de ses bras repliés. Lorsqu'il l'eut senti au point de la faner, il demeura encore un moment accroupi auprès d'elle pour se ressaisir, car il était plein d'elle à n'en plus pouvoir. Il entendait ne rien renverser de ce parfum. Il fallait d'abord qu'il referme en lui toutes les cloisons étanches. Puis il se leva et souffla la bougie.
Il est intéressant de noter que cette histoire se déroule au XVIIIe siècle, qui est l'époque de la philosophie sensualiste, laquelle considère qu'on ne peut exister et comprendre le réel que par les sens. Avec Grenouille, cet état d'esprit est dévoyé puisqu'il commence à développer, via l'autre qu'il séduit et qui séduit son odorat, une hiérarchie des valeurs entre la bonne odeur et la mauvaise odeur. Jusque-là, pourquoi pas, mais Grenouille bascule lorsque le meurtre lui devient nécessaire pour posséder l'autre, disposer de l'essence même, notamment des jeunes filles. C'est comme s'il devait devenir elle et se remplir d'elles en acquérant leurs odeurs. Grenouille est vampirique, il construit son identité en prenant aux autres, et ce avec des passages mêlant l'érotisme et l'horreur, comme celui que l'on vient d'entendre. Pour arriver à la confection de son parfum absolu, il plonge dans le crime en série afin de collecter des odeurs de jeunes femmes. Ainsi, après la quête de lui-même via les odeurs, Jean-Baptiste en vient à la possession de l'autre et à ce que la philosophie grecque nomme l'hybris, c'est-à-dire l'orgueil et la démesure. En effet, si dans un premier temps, Jean-Baptiste veut juste se trouver un parfum, ensuite, il désire créer une odeur qui lui donnera du pouvoir sur autrui et lui permettra d'être enfin reconnu et admiré. Grenouille voudra de la sorte stimuler le désir, mais son grand drame demeure que le désir éprouvé par l'entourage pour lui ne sera jamais que pour les odeurs qu'il s'est mises et en aucun cas pour lui-même. On vient de le voir, le nez et l'odorat font office de symboles pour se questionner sur la condition humaine, sur la quête identitaire, mais aussi pour parler de ce que l'humanité fait de pire. Après donc la dépiction du pire, plongeons pour terminer dans un tableau de ce que la société fait de plus absurde et de plus ridicule, toujours à partir d'une histoire de nez. Dans la nouvelle « Le nez » de l'auteur russe Gogol, cet organe va devenir le symbole du pouvoir, de la hiérarchie et des délires administratifs les plus poussés. Publié pour la première fois en 1836 dans la revue littéraire Le Contemporain, ce texte apparaît également dans le recueil « Les nouvelles de Pétersbourg » en 1840. Kovialov, le héros de cette nouvelle, est un petit fonctionnaire imbu de sa personne et épris de reconnaissance sociale. Un beau jour, sans raison aucune, son nez disparaît. Offensé, Kovialov part alors à la recherche de son nez, persuadé d'être la victime d'un complot. Cette quête désespérée est l'occasion pour Gogol de dépeindre la société pétersbourgeoise et d'en révéler les travers, les bassesses et la vacuité. Précurseur de l'absurde, Gogol montre, à travers cette nouvelle, des personnages sans envergure qui se perdent dans les rouages administratifs et dans un univers vidé de son sens. Tout commence avec le pauvre barbier Ivan, qui retrouve dans son petit déjeuner le nez de Kovialov.
Ivan Yakovlievitch, par respect pour les convenances, endossa un vêtement par-dessus sa chemise et, ayant pris place à table, posa devant lui deux oignons et du sel. Puis, s'emparant d'un couteau, il se mit en devoir de couper le pain. L'ayant divisé en deux, il jeta un regard dans l'intérieur et aperçut avec surprise quelque chose de blanc. Il y plongea avec précaution le couteau, y enfonça un doigt.
« C'est solide !»
fit-il à part soi.
« Qu'est-ce que cela pourrait bien être ?»
Il enfonça encore une fois les doigts et en retira un nez. Les bras lui en tombèrent. Il se mit à se frotter les yeux, à le tâter. C'était en effet un nez, et au surplus, lui semblait-il, un nez connu. La terreur se peignit sur la figure d'Ivan Yakovlievitch. Mais cette terreur n'était rien en comparaison de l'indignation qui s'empara de son épouse. « À qui, bête féroce, as-tu coupé le nez comme cela ?» s'enquit-elle avec colère. « Coquin, ivrogne, je te dénoncerai moi-même à la police, brigand que tu es. J'ai déjà ouï dire à 3 personnes que tu avais l'habitude, en faisant la barbe, de tirer si fort les aînés qu'ils avaient peine à rester en place. » Mais Ivan Yakovlievitch était plus mort que vif. Il avait enfin reconnu, dans ce nez, le propre nez de l'assesseur du collège, Kovalyov, à qui il faisait la barbe tous les mercredis et dimanches.
« Mais attends un peu, Praskyova Osipovna. Je vais l'envelopper dans un chiffon et le poser dans un coin. Qu'il demeure là quelque peu, je l'emporterai plus tard. »«
Je ne t'écoute même pas que je consente à garder dans ma chambre un nez coupé. Biscuit aussi que tu es, tu ne sais que manier ton rasoir et bientôt tu ne seras même plus en état d'accomplir tes devoirs, coureur, vaurien. Que je sois responsable pour toi devant la police, imbécile, Solivova. Hors d'ici avec lui, hors d'ici. Porte-le où tu voudras, que j'en entende plus parler. »
Paniqué, le pauvre Ivan cherche à se débarrasser du nez très embarrassant. Et pendant ce temps, l'assesseur Kovalyov se réveille et va découvrir le drame.
L'assesseur du collège Kovalyov s'éveilla d'assez bonne heure et fit avec ses lèvres brrr, ce qu'il faisait toujours en s'éveillant, quoiqu'il n'eût jamais pu expliquer pourquoi. Il s'étira et demanda une petite glace qui se trouvait sur la table. Il voulait jeter un coup d'œil sur le bouton qui lui était venu sur le nez la veille au soir. Mais à sa grande surprise, il aperçut à la place du nez un endroit parfaitement plat. Effrayé, Kovalyov se fit apporter de l'eau et se frotta les yeux avec une serviette. En effet, le nez n'y était pas. Il se mit à se tâter pour s'assurer qu'il ne dormait pas. Non, il ne dormait pas. Il sauta en bas du lit, se secoua, « Pas de nez !» Il demanda immédiatement ses habits et courut droit chez le grand maître de la police.
La nouvelle se poursuit et l'on plonge à pieds joints dans l'absurde lorsque l'assesseur voit, au milieu d'une rue, son nez qui se balade tout seul devant un bazar dans un uniforme de conseiller d'État.
Le nez avait complètement dissimulé sa figure sous son grand col et examinait avec beaucoup d'attention je ne sais quelle marchandise.
« Comment l'aborder ?»
se demandait Kovalyov.
« En juger par tout son uniforme, son chapeau, il est évident qu'il est conseiller d'État. Du diable, si je ne sais comment m'y prendre. »
Il se mit à tout sauter à côté de lui, mais le nez gardait toujours la même attitude.
« Monsieur ?»
commença Kovalyov, en faisant un effort pour reprendre courage.
« Monsieur ?»«
Que désirez-vous ? » répondit le nez en se retournant.
« Il me semble étrange, monsieur. Je crois que vous devriez connaître votre place. Et tout à coup, je vous retrouve où ?» Vous conviendrez.
Excusez-moi, je ne comprends pas bien de quoi il vous plaît de me parler. Expliquez-vous.
Comment lui expliquer cela ?
Pensait Kovalyov. Et, prenant son courage à deux mains, il continua.
Certes, moi je suis major. Pour moi, ne pas avoir de nez, vous en conviendrez, n'est pas bien séant. Une marchande qui vend des oranges sur le pont de Von Sniesenke peut rester là sans nez, mais moi, qui ai envie d'obtenir avec cela, qui fréquente dans plusieurs maisons où se trouvent des dames, Madame Tchekeniev, la femme du conseiller d'État et d'autres encore, jugez vous-même, je ne sais vraiment pas, monsieur.
Ici, le major Kovalyov haussa les épaules.
« Excusez-moi si on envisage cela au point de vue des principes du devoir et de l'honneur. Vous pouvez comprendre cela vous-même. »«
Je n'y comprends absolument rien, » répliqua le nez. « Veuillez vous expliquer d'une façon plus satisfaisante. »«
Monsieur !»
fit Kovalyov avec dignité.
« Je ne sais comment je dois entendre vos paroles. Il me semble que tout cela est d'une évidence absolue. » Bien, vous voudriez, mais vous êtes pourtant mon propre nez.
Le nez regarda le major en fronçant les sourcils. « Vous vous trompez, monsieur, je suis moi-même. En outre, il ne peut exister entre nous aucun rapport, puisque, à en juger par les boutons de votre uniforme, vous servez dans une administration autre que la mienne. » Après avoir dit ces mots, le nez se détourna.
Pour récupérer le pouvoir et l'ascendant sur son nez, Kovalov va s'embarquer dans des procédures administratives plus vaines les unes que les autres. Il fait appel à la presse, qui ne le prend pas au sérieux malgré l'absence de nez sur son visage. Il veut exposer son témoignage à un écrivain. Il se rend auprès de la police, ainsi de suite. Au commissariat, en raison de son petit grade, on le traite avec arrogance. Autrement dit, sans son nez, l'assesseur se sent dépouillé de son honneur, de son identité et même de sa virilité. C'est un coquet, un homme imbu de son apparence et aussi de son rang social, du moins jusqu'à cette mésaventure où il découvre que son nez est plus gradé que lui et que donc il perd tout crédit en son absence. Ainsi, la dignité d'une personne et sa hiérarchie dans l'administration ne tiendraient-elles qu'à un nez ? À l'inverse, Ivan, le pauvre barbier, très craintif derrière ses tentatives d'avoir l'air respectable, redoute déjà tous les ennuis et même la colère de sa femme en découvrant le nez de l'assesseur chez lui. En tant que petit artisan, homme bien moins important que le dépossédé de son nez, les ennuis ne risqueraient-ils pas de lui retomber sur le coin du nez ? Car c'est bien connu, selon la place des uns et des autres dans la hiérarchie, l'on prend plus ou moins cher. Cela dit, le barbier n'est pas non plus un homme impeccable, c'est un ivrogne. Et à côté de ces deux personnages grotesques, suivent toute une cohorte de fonctionnaires zélés que la situation incongrue met devant leurs limites cartésiennes, devant leur incompétence à traiter ce qui sort des cases. Sans parler des tentatives de corruption, des aigreurs et des susceptibilités bureaucratiques. Dans un univers où chacun a son rôle et sa petite tâche à effectuer selon son rang, et où chacun doit régler son apparence et son vocabulaire en fonction des consignes hiérarchiques, pas étonnant que l'arrivée d'un élément atypique fasse dérailler la machine. Dans ce texte précurseur de l'absurde, le burlesque et les incongruités sont mis au service d'une critique sociale. Ainsi, le nez est la personnification de l'ambition de Kovalov. Il porte un uniforme brodé d'or et une épée au côté. Conseiller d'État, le nez, du fait de sa position hiérarchique élevée, incarne ce à quoi Kovalov aspire, et il suscite par là même sa jalousie. Kovalov se sent doublement usurpé. On l'a dépourvu de son organe olfactif et on lui a dérobé son statut social. Pourquoi d'ailleurs Gogol a-t-il choisi le nez pour symboliser la destitution sociale ? Eh bien, il faut savoir qu'une des activités favorites des pétersbourgeois à l'époque de Gogol est la prise de tabac. Privé de son nez, Kovalov ne peut plus se livrer à cet acte social. Et le manque se fait d'autant plus sentir quand un journaliste, qui est l'employé d'une gazette locale, l'invite à priser du tabac. Par ailleurs, la sensibilité aux odeurs est un signe de supériorité sociale. Les pauvres ne sentent rien alors que les riches ont des nez très délicats. Bref, un nez pour en dire long sur nos sociétés modernes, et le musicien Shostakovich a adapté la nouvelle de Gogol en opéra, dont on écoute un passage, le galop du nez. On pourra dire en conclusion que, comme tout symbole, le nez est ambivalent, positif ou négatif, selon le sens dans lequel on le lit et ce qu'on en fait. Signe de puissance ou de destitution, don ou malédiction, il reste un organe particulièrement prolixe et voyant pour construire des identités singulières et marquer durablement des personnages et ce qu'ils incarnent. Je me suis appuyée pour construire cette émission sur l'étude de Cataline Chouage portant sur le portrait baroque et Charles de Cigogne, ainsi que sur l'émission Philosophie du nez, diffusée sur France Culture le 12 janvier 2017. Vous avez pu entendre un extrait du dessin animé Astérix et Cléopâtre, la chanson « Le nez de Cléopâtre » de Ray Ventura, le concerto pour mandoline de Vivaldi, le morceau « Content désir » par le groupe de musique renaissante « Douce mémoire », des extraits du film « Cyrano de Bergerac » de Jean-Paul Rimpenaud et la bande originale « Le parfum » de Tom Tykwer, le tango de Zbigniew Preinzer, le morceau « Leindornrisis » du groupe Vardruna, Pizzicato Polka de Strauss et un extrait de l'opéra Le Nez de Shostakovich. Et c'était Jenny, littérairement vôtre, pour Radio Campus Grenoble 90.8.